Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Hugues Rennes, président de l'association Accueil et Échange qui s'occupe du centre de l'Aube à Piégros-la-Clastre. Il est venu pour annoncer un certain nombre d'événements qui incitent l'homme au meilleur de lui-même, en commençant par lui-même, bien entendu. Monsieur Rennes, bonjour.
Bonjour Louis.
Alors bon, on a passé un petit peu en revue avant cette interview tout ce que vous allez nous proposer à peu près de maintenant au mois d'août. C'est assez chargé, hein, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer.
Non, je m'ennuie pas du tout. Comme vous le disiez, à l'Aube, on reçoit tous les gens, et parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des stages, hein, nous sommes assez nombreux, qui incitent l'homme au meilleur de lui-même, comme vous le disiez, et en commençant par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des leçons, on commence et on essaye de diffuser un certain nombre de choses qui peuvent aider l'homme à aller vers le meilleur de lui-même. Et c'est, je pense, le souci de beaucoup.
Y aurait-il encore des êtres humains qui oublieraient que plutôt que de changer le monde, il vaudrait mieux qu'ils se changent eux-mêmes ?
Ah oui, je pense que c'est une idée qui n'est pas encore très répandue, hélas, que pour changer le monde, comme vous le dites, il faut commencer par soi-même, et que si on veut éviter les guerres, même loin et où elles se passent dans le monde, il faut commencer par faire la paix en soi-même et avec les autres autour de nous. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, que bien sûr, c'est une idée que beaucoup développent, mais qui n'est pas encore assez diffusée. Et trop souvent, on se croit qu'en réglant les problèmes extérieurs, on va régler les choses, alors que tout commence à l'intérieur.
Mais comment expliquer cette erreur de télescope ?
C'est assez simple, c'est qu'en fait, depuis maintenant quelques milliers d'années, et si ce n'est pas plus de millions, l'humain a développé une connaissance du monde extérieur, une maîtrise du monde extérieur qu'il n'avait pas à l'origine. Il y a 7 millions d'années, on maîtrisait très très peu de choses. Et donc cette maîtrise a tourné tous ses organes d'essence vers la vie extérieure. Et donc il a fait des conquêtes magnifiques, il ne faut pas l'accuser de ça. Sauf qu'il a un peu perdu au niveau de la vie intérieure, et depuis maintenant assez peu de temps, on va dire peut-être... Bien sûr, ça a toujours existé, mais maintenant, ça va prendre de l'importance. La conquête du monde intérieur, la compréhension du monde intérieur va devenir de plus en plus importante parce qu'on ne s'en sortira pas sans ça, car tout commence dans la vie intérieure. Tout commence dans la vie intérieure. J'aime bien cette façon de présenter les choses, c'est dire, avant toute action, il a fallu que nous percevions quelque chose, que nous pensions, que nous ayons un enchaînement de pensées, que cette pensée produise une décision, le plus souvent pas très consciente ou inconsciente, et que cette décision va produire une action. Et que donc si on s'occupe de l'action sans comprendre le processus qu'il y a eu avant, on ne comprend pas l'humain. Et l'humain, justement, il a quelque chose de très particulier, c'est sa perception. Il a une perception des choses qui est liée à son histoire et qui n'est pas liée à la réalité. C'est ce que en Inde, on appelle Maya, l'illusion. Nous percevons depuis l'illusion de notre histoire personnelle, qui n'est pas une illusion pour notre histoire, mais qui est une illusion pour la perception actuelle. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et comme vous l'évoquiez, peut-être c'est quelque chose à développer et à faire comprendre, pour soi-même d'abord, et puis peut-être à d'autres.
Alors je ne l'ai pas précisé, mais je vais le faire de ce pas, parce que vous êtes venu à d'innombrables reprises à RDWA pour annoncer tel ou tel événement. C'est que le Centre de l'Aube, justement, a comme ambition, par un certain nombre de biais différents, très éclectiques, d'amener l'homme à se connaître lui-même. Et justement, vous êtes venu nous annoncer un programme très chargé et très riche. Et je vous en remercie encore.
Merci, lui.
Alors donc, commençons par le début. Ça commencera, je crois, le 26, c'est-à-dire aujourd'hui même.
Aujourd'hui même. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient faire une conférence à 20h30 sur l'accompagnement des mourants, des grands malades, des malades et des mourants. Et puis, je crois que c'est quelque chose d'important parce que tous, nous sommes entourés de personnes qui vieillissent, nos parents, nos grands-parents, ou ça dépend de l'âge qu'on a. Et que nous sommes donc tous concernés par l'accompagnement des mourants et comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Ça me paraît extrêmement important parce que ça nous concerne vraiment tous. Et que faire de l'accompagnement des mourants quelque chose d'uniquement technique, c'est un petit peu dommage parce que c'est un humain qui a tout un parcours, toute une vie qui s'éteint, et cette vie mérite d'être accompagnée dignement. Et cette dignité, elle est aussi ouvrir une perspective, c'est-à-dire qu'en fait cette vie, c'est pas parce que la mort arrive que la vie s'arrête. La vie, elle est beaucoup plus grande que ça. La vie ne commence pas à la naissance. La vie, elle a commencé déjà dans la fécondation, elle a même commencé avant. Et donc c'est une longue chaîne, l'histoire de la vie, et donc c'est redonner cette vraie dimension à la mort, la dimension telle qu'on peut la considérer depuis la vie spirituelle et pas simplement depuis la vie du corps.
cet accompagnement aux mourants, vous la pratiquez vous-même ou est-ce que vous faites intervenir des gens spécialisés dans
alors
ce...
là c'est non c'est pas du je fais beaucoup de choses mais pas ça sauf que je le fais pour les gens qui sont proches de moi, bien sûr. Je sais comment il faut s'y prendre parce que j'ai suivi un petit peu cet enseignement, donc je le connais. Mais là c'est une femme qui s'appelle Colette Jonquera et qui a été confrontée de façon très forte personnellement et par son mari qui a été condamné à mort par les médecins et qu'on a cru qu'il était mourant, on a été prêt à l'enterrer, et puis qui est ressorti de cette période extrêmement compliquée. Elle l'a accompagné, et donc c'est quelque chose qui l'a particulièrement touché, et donc elle vient nous en parler ce soir à l'aube.
Très rapidement, vous avez évoqué des choses à faire et à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un mourant, si ce n'est lui apporter de l'attention et de l'amour, peut-être ?
Oui, bah, vous avez raison. Ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la mort nous confronte à la nôtre et que quelquefois, ça nous inquiète. On a aussi souvent beaucoup de tractations affectives avec le mourant et que tout ça alourdit les choses. Et que donc, accompagner du point de vue de l'amour, c'est aussi alléger la fin de la vie de cet être. Et ce qui allège, c'est que la vie soit en ordre, que les choses soient en ordre avant la mort, qu'on n'alourdisse pas avec ses propres problèmes à soi. Et donc, ça veut dire qu'il faut déjà résoudre un certain nombre de choses en soi-même. Mais vous avez raison, sur le principe lui-même n'est pas si compliqué. Mais en fait, dans la réalisation et dans le fait que ça nous émeut beaucoup, ce n'est pas si simple.
Quelqu'un qui arriverait perturbé, même avec les meilleures intentions du monde, pourrait ne pas séréniser le mourant.
Oui, complètement. C'est-à-dire que tout ce qu'on va rajouter comme tension, comme... Vous savez, le mourant, il rentre dans un monde qui est un monde extrêmement simple où on perçoit les êtres, pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur, comme le petit enfant. Le petit enfant, il perçoit sa maman pas comme un prénom, pas comme au début un visage. Il la perçoit parce qu'elle est intérieurement. Il perçoit depuis la vie intérieure. Le mourant, il s'approche de l'essentiel. Et donc, il perçoit les choses. Il perçoit très bien quand quelqu'un rentre dans la pièce où il est, quelle est son intention, quelle est son humeur, quelle est ce que j'appelle sa météo intérieure. Et si cette météo intérieure est tendue, en tension par propre peur ou par problème affectif avec ce mourant, chose non réglée, ça alourdit la personne qui meurt.
Et bien ça va se passer ce soir même, le 26 mai. Et puis ensuite, dans le cadre des soirées de l'aube, vous allez nous proposer un témoignage d'un marcheur du pèlerinage de Compostelle.
Oui, voilà.
Ce sera
donc demain, mercredi. Donc si vous voulez, on organise régulièrement à l'aube des soirées, ce qu'on appelle les soirées de l'aube. Et dans ces soirées, on va présenter des sujets très différents d'ailleurs. La dernière fois, c'était un jeune homme qui avait fait 24 000 km à vélo, qui avait traversé d'Ushuaïa à Vancouver. Et qui avait vraiment fait des rencontres magnifiques en Amérique du Sud et en Amérique, d'ailleurs, aux États-Unis et au Canada. Et donc, voilà, il y a des sujets très différents. Et cette fois-ci, on a invité Alain Sicot, qui est un homme qui a un parcours particulier parce qu'il était illettré pour des raisons personnelles à sa vie. Et c'est quelqu'un qui, donc, a un contact avec la nature et avec les êtres très direct. Et depuis, d'ailleurs, il a écrit un livre, donc, vous voyez, à propos du chemin de Compostelle, justement, Journal d'un illettré. Il annonce la couleur. Et donc, c'est quelqu'un qui, en même temps, propose des marches, que ce soit à Compostelle ou ailleurs, d'ailleurs, des marches très courtes, même dans la région ou bien dans le Doubs, puisqu'il habite dans le Doubs. Et qui en même temps propose non seulement une marche extérieure mais une marche intérieure, une démarche intérieure, c'est-à-dire c'est se rencontrer à travers la marche et ça aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est extrêmement important de savoir qui nous sommes, comment je fonctionne et comment je pourrais peut-être mieux fonctionner, comme on l'a dit tout à l'heure, être un peu plus dans le meilleur de moi-même que dans le bas de moi-même.
Vous connaissez peut-être le pèlerin russe, non ?
Oui, bien sûr.
Eh bien, je ne sais pas si c'est dans le pèlerin russe, mais en tout cas, il y a un petit proverbe russe qui dit « c'est le pied qui fait l'homme ». Effectivement, il est possible d'envisager que la marche, qu'on dit aussi le sport le plus adapté à notre physiologie, soit de nature à nous rapprocher. En tout cas, c'est une méditation sans en être une et qui permet de se rencontrer. Et le pèlerinage de Compostelle est d'ailleurs très réputé et très à
bien
la
sûr.
Mode,
oui, très
entre parenthèses, pour cela, pour cette rencontre avec soi-même.
Voilà, c'est ça. Il faut le prendre dans cette optique-là. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse le pèlerinage de Compostelle dans cette optique, mais c'est vrai que c'est une rencontre intérieure, donc il n'y a pas de performance physique, il n'y a rien de tout ça. Il y a marcher, se rencontrer, et forcément dans cette rencontre, c'est avoir la tendresse pour soi, parce que le premier amour commence par nous-mêmes. Avant de devoir donner dehors, il faut en avoir un petit peu. Et donc, il faut déjà avoir beaucoup de tendresse pour notre propre fonctionnement, pour notre propre disgrâce. Et on rencontre beaucoup de nos disgrâces dans la marche, d'ailleurs dans tout ce qu'on fait.
On peut même tout simplement avoir très mal aux pieds et aux jambes.
Et voilà, exactement. Pour avoir marché trop vite, etc. Ou bien avoir pas choisi des bonnes chaussures. Donc manque de tendresse envers soi, manque d'attention à soi. Tout ça va forcément se retrouver dans la marche et dans les difficultés qu'on va rencontrer. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la marche, je sais pas ça par cet ami, parce qu'il a écrit, mais j'ai fait un peu de marche aussi. Oui.
Vous préférez la moto, si je ne m'abuse.
J'aime bien la moto, mais j'ai fait beaucoup de marche, énormément de marche.
Très bien, ça c'était donc la deuxième proposition. Ensuite, le 6-7 juin, un week-end sur la sexualité.
Oui, alors ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, des week-ends sur la sexualité. Vous savez bon, que je participe aux émissions avec Brigitte Lahaye sur RMC régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'importe parce que je trouve que la sexualité est très mal considérée. C'est-à-dire que soit on la considère avec dérision, on s'en moque, on en fait un peu des gorges chaudes, soit on en parle de très très loin comme si c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Et je crois qu'il faut le courage de l'aborder avec en même temps toute la clarté qu'il faut et en même temps tout le respect qu'il faut à cette fonction. Et donc c'est pour ça que je développe vraiment ces week-ends depuis maintenant plusieurs années, 3 par an. Deux qui vont être plutôt de prise de contact, donc où on va plus de contact même plus que ça, mais qui vont permettre de faire déjà le tour de la sexualité, de cette fonction, comment ça marche, et puis un d'approfondissement pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Voilà.
Oui, alors ça s'adresse à qui pourrait être intéressé par ce genre de stage ?
Écoutez, je pense qu'à part les enfants qui ne sont pas encore dans la sexualité, j'ai fait des cours pour des jeunes qui ont été absolument très très intéressés, dans les écoles même, j'en ai fait. Je crois que ça intéresse tout le monde, parce que la sexualité, comment vous dire ? Quand on dit sexualité, on pense tout de suite relations charnelles, sexuelles, homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, bref. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs sexualités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la quête du plaisir dans un corps à corps avec la quête du plaisir seul, c'est-à-dire la quête du plaisir seul, j'entends pas simplement masturbation et auto-érotisme, j'entends même le plaisir dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que les règles du plaisir dans la vie quotidienne, ce qu'on appelle les envies, fonctionnent de la même façon que la sexualité. Et je dirais même plus loin que ça, cette sexualité qui nous permet de nous rapprocher de l'autre différent, de l'autre qui m'amène un plus, c'est extrêmement important déjà, même spirituellement, parce que c'est à la rencontre d'un monde. Alors si c'est homme hétérosexuel, c'est un monde inconnu, je dirais même assez pratiquement, qui jouit différemment. C'est-à-dire que l'homme et la femme, au départ, ont des plaisirs différents. Et pourtant, rentrer en considérant que ces deux plaisirs associés sont plus forts que seuls, c'est extrêmement intéressant, mais il faut comprendre comment ça marche. Parce qu'autrement, on dit, ben voilà, ça ne marche pas pareil, c'est comme ça. Ben oui, mais si on cherche une qualité dans le plaisir, on se rend compte que ce que la femme sait du plaisir et ce que l'homme sait du plaisir mis ensemble est beaucoup plus fort que simplement ce qu'en sait chacun de son côté. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose, c'est que en tant que femme, ou homme, on connaît un peu notre monde anatomique et dans le principe de notre plaisir, mais on ne le connaît pas si bien que ça. Et donc déjà, que nous nous approchions un peu mieux de notre propre façon d'aborder le plaisir à chacun, et ensuite rentrer dans comment l'autre rencontre le plaisir, c'est vraiment une éducation personnelle et quelque chose qui nous permet de mieux jouir, je dirais. Or, c'est extrêmement important parce que l'humain est la première espèce qui a séparé la sexualité de la reproduction. Donc, c'est extrêmement important à comprendre que si la vie a mis à la capacité d'avoir une relation sexuelle aux humains en dehors de la reproduction, c'est qu'elle attend que quelque chose se passe dans cette fonction qui dépasse la reproduction. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant à considérer parce qu'autrement, on perd une grande dimension de la sexualité.
Surtout que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a parlé de libération sexuelle après 1968, mais il y a encore de nos jours une misère sexuelle qui s'étend un peu partout. Les gens comblés sexuellement sont peut-être une minorité.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu en 1920, 1960, 1968, il y a eu toute l'histoire de la pilule, tout ça, qui a fait une certaine libération, en effet. Mais comme vous le dites, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on présente de la sexualité maintenant, c'est une sexualité magnifique, comme si on était tous des Rambo, des Indiana Jones, Lara Croft, vous voyez. Et ça, c'est archi faux, ça. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas, une sexualité comme ça. Ce qu'on présente dans les films plus ou moins érotiques ou pornographiques, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça, la sexualité. La sexualité, c'est ça peut avoir beaucoup de tendresse envers soi et envers l'autre, et sur cette tendresse, une quête de plaisir. Et avoir pour but, dans la sexualité, une espèce de jouissance extrême, c'est imbécile. Ce qu'on peut faire, c'est se dire comment je suis disposé par rapport au plaisir dans l'instant présent. Et qu'est-ce que c'est qui ferait du bien dans l'instant présent à moi et à mon ou ma partenaire. Et de pas en pas, de plaisir en plaisir, alors une certaine intensité peut venir. Mais avoir un but dans la sexualité, c'est aller contre les lois de la sexualité, parce que la sexualité, elle est faite pour nous mettre dans l'ici et maintenant. Il faut bien comprendre, c'est d'un ici et maintenant. Vous ne pouvez pas, vous le savez très bien, tout le monde le sait, au moment où le plaisir monte, je ne dis pas dans les niveaux bas, mais quand le plaisir monte, on ne peut pas se dire il est telle heure, et je suis à tel endroit et je m'appelle machin. Vous pouvez pas, on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas dire je m'appelle Ugraine, j'habite 46 impasse des machins et il est 20h30. Parce qu'autrement, il n'y a pas de jouissance. Et donc, le plaisir sexuel nous extrait du temps, de l'espace et de notre propre personnalité, ce qui est exceptionnel comme expérience humaine, et que cette expérience ne supporte pas que nous pensions but, que nous pensions temps, que nous pensions personnalité.
Et au prochain rendez-vous que j'ai, etc.
Voilà, et au prochain rendez-vous que j'ai. Et d'ailleurs, on le sait bien, quand on redescend de ce plaisir, on retrouve tout ce poids et on voit à quel point c'est difficile. On se dit, ah oui, il faut que j'aille faire ça. Il y a quelque chose qui est douloureux, un peu douloureux après l'acte sexuel. Et ça aussi, il faut beaucoup de tendresse pour cette douleur de l'humain qui réatterrit. On disait avant du 7e ciel, je ne sais pas si c'est le 7e, mais cette image n'est pas ridicule. Elle indique à quel point nous sommes montés dans des dimensions de plaisir, dans des dimensions spirituelles, peut-on dire, bien sûr, et à quel point cette redescente dans la matière n'est pas toujours facile.
Animal tristé post-coitum.
Voilà, post-coitum. Moi, je l'habitais dans l'autre sens. Post-coitum, après le coït, animal triste. L'animal est triste, oui. C'est ça. L'animal, parce que, en effet, c'est très intéressant qu'on ait dit animal et pas homme, c'est-à-dire qu'on rencontre son animalité dans la sexualité. C'est ça qui nous fait un peu peur, d'ailleurs. Et cette animalité qu'on rencontre, eh bien, elle est un peu triste quand elle ressort de cette belle rencontre qui a été la sexualité. Belle, plus ou moins intense, plus ou moins réussie, mais ça, c'est pas le problème. De toute façon, ce qu'il faut, c'est de la tendresse.
Je voudrais pas faire une trop grande digression, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un singe évolué et un animal avant toute chose.
Voilà, nous ne sommes pas très loin de l'animal. Et d'ailleurs, c'est une réconciliation avec l'animal, la sexualité. C'est une réconciliation. Nous traitons mal l'animal en nous, et cette réconciliation est nécessaire. Voilà, certaines sagesses disent même qu'on rencontre son animal totem dans la sexualité. C'est pas forcément ridicule.
Oui, et puis de toute façon, comme disait aussi, j'adore les petits proverbes, hein, je pourrais m'excuser, mais comme disait Rousseau, je reviens, c'est qui fait l'ange fait la bête. N'oublions pas notre animalité, sinon on risquerait d'être des purs esprits, un peu coupés de la réalité. Et...
Coupés du monde, coupés de la terre, coupés de la réalité terrestre, qui est pourtant à relier au spirituel.
Tout ceci par l'intermédiaire de cette sexualité qui peut être obsédante si elle n'est pas résolue ou en tout cas s'il y a un nœud non résolu en fait.
Tout à fait. Et là aussi, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La sexualité, comme vous le disiez tout à l'heure, globalement, il y a beaucoup de misère dans la sexualité. Bon, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je suis gynécologue obstétricien. J'ai travaillé peut-être 40 ans en cabinet. Donc, je vois bien que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de problème. Nous avons tous des difficultés parce que c'est une fonction complexe. C'est une fonction qui nous met en jeu de façon forte. Et donc tous, nous avons besoin d'y voir clair, tous nous avons besoin de faire un pas dans ce domaine.
Ceci dit, pour terminer sur ce sujet qui est somme toute passionnant, vous avez vu ce film avec Liam Neeson, Dr Kinsey, Parlons Sexe ?
Non, je ne l'ai pas vu.
McKinsey, ça va être un médecin qui a eu l'audace dans les années 40 ou 50 de faire une étude sur le sexe et qui s'est heurté à tellement de préjugés que ça en était, que c'était vraiment un chemin de croix. Il s'est battu, hein. Il en a sorti une compilation.
Oui, mais c'est pas Master et Johnson, non ? C'est pas sur l'histoire de Master et Johnson qui avait fait justement une étude sur la sexualité.
C'est possible.
Je pense que c'est eux.
En tout cas, le film s'appelle Dr Kinsey, Parlons Sexe. Voilà, donc,
mais je crois que c'est ça. Je crois bien que c'est ça. C'était
un bon
pionniers, film en plus. Des pionniers, oui. Ils avaient fait. C'était même très. Leur histoire est très amusante. Hein.
Il y a même une série, je pense, là-dessus.
Oui, c'est possible. Je ne me
rappelle plus. Le Master of Sex qui est pas mal.
Peut-être.
Voilà, donc ça c'était, je vous prie de m'excuser, toutes ces petites digressions,
somme toute
pas si inintéressantes que cela.
Oui, oui.
Et ensuite, vous organisez le 20 et 21 juin un séminaire ou un stage sur l'évolution. Hein. Vous étiez déjà venu précédemment pour en parler d'un autre, sans doute.
Oui, c'est le même style, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que l'histoire de la vie, c'est-à-dire surtout la phylogénèse, parce qu'il faut commencer par, on va pas commencer par l'astrophysique qui est beaucoup plus lointaine, mais l'histoire de la phylogénèse, c'est-à-dire l'histoire de la vie sur Terre, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous comprendre. Hubert Reeves dit « nous sommes poussière d'étoiles », c'est-à-dire que nous venons du cosmos, et comprendre comment tout ça s'est organisé pour construire la Terre et nous construire nous-mêmes, ça nous fait assister aux grandes lois de l'évolution. Et donc on ne peut pas être surpris de ce qui se passe si on comprend ces grandes lois. Et je pense que étudier la phylogénèse, étudier l'histoire de l'enchaînement des règnes minéral, végétal, animal, à quel point chacun a amené sa pierre à l'évolution, à quel point chacun s'est battu pour faire progresser la vie sur Terre, et comprendre que nous aussi nous sommes dans cette grande histoire-là, ça me paraît essentiel pour comprendre notre place et la place des espèces qui nous ont précédés. Et donc respecter ces espèces qui nous ont précédés. C'est-à-dire que je crois que dans le problème de l'écologie, ce qui se passe, c'est qu'on s'occupe beaucoup trop de l'écologie et pas assez de l'écologue. L'écologue, c'est l'humain qui pollue. Et tant qu'on essaie de réparer les dégâts, on court après quelque chose qui est un peu utopique pour moi. Alors que se dire, mais il faudrait que j'apprenne à cet humain à se respecter et à respecter le monde d'où il vient, alors ça fera que nous serons tous des écologues, c'est-à-dire des êtres capables de respecter la Terre, et que c'est cette transformation intérieure qui produira encore une fois la transformation extérieure de la Terre. Voilà.
Cette phylogénèse, monsieur Rens, vous l'abordez sous quel angle ? Est-ce que vous êtes créationniste ou est-ce que vous êtes darwinien ?
Ah non, je suis ni d'un côté ni de l'autre. J'essaie de comprendre les lois à travers les phénomènes qui ont eu lieu. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre comment les choses se sont enchaînées, quelles sont les grandes lois. Et non, je n'ai pas d'a priori, moi, j'ai aucun a priori. C'est-à-dire que c'est plus de l'ordre de la contemplation, de la contemplation personnelle aussi, c'est-à-dire la mienne, mais je ne demande pas qu'on assiste passivement à ma contemplation. J'espère juste que la mienne incitera chacun à faire la sienne. Et donc il n'y a pas de voie toute tracée, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien. Il y a chacun qui essaye de percevoir cette grande histoire et de voir comment ça s'est enchaîné, comment ça marche, et d'assister lui-même à cette belle histoire.
Néanmoins, pour répondre à la question quand même, vous pensez que nous sommes le fruit d'une longue évolution ou nous fûmes créés par un coup de baguette magique divin ?
Coup de baguette magique divin, je ne sais pas. Vous savez, je crois que nous sommes, je crois que peut-être bien qu'il y a eu une création sûrement, il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui échappe pour l'instant à notre compréhension, parce que nous vivons dans un temps, dans un espace, et que déjà quand on écoute les grands astrophysiciens, j'en ai écouté un récemment, un américain, Trin Xuan Chang, on s'aperçoit bien que le temps est très relatif, l'espace est relatif, la masse est relative, tout est relatif. Et donc notre compréhension depuis notre perception à nous des choses, elle est c'est un peu utopiste de s'y attacher de façon formelle. Et que donc penser qu'en évoluant nous allons comprendre les lois de plus en plus élevées, et que peut-être petit à petit nous allons rentrer dans une certaine compréhension de ce qu'on appelle Dieu, ça ne me paraît pas utopique, ça. Je peux le comprendre. Je me dis, est-ce que dans les espèces qui ont été créées à un moment, comme par exemple la fleur, est-ce que la fleur pouvait penser l'animal, le règne suivant ? Je pense qu'elle a eu du mal. Je pense que même l'orchidée, qui était très évoluée, puisqu'elle s'approchait, elle avait des formes qui s'approchaient de l'animal, est-ce qu'elle a pu penser l'animal ? Je ne crois pas. Et donc penser les règnes au-dessus de nous, c'est compliqué. Est-ce que l'animal pouvait penser l'humain ? Est-ce que le chien, si vous avez un chien, est-ce que le chien sait que vous payez des impôts ? Est-ce qu'il sait votre vie ? Il ne sait pas grand-chose de votre vie, le chien. Et pourtant, c'est un animal domestique. Et pourtant, c'est un animal très, très proche. Et donc, on voit bien qu'il y a entre les règnes des espèces de gouffres, quoi, de gouffres de fonctionnement. Et donc, parler de Dieu, c'est comme si on essayait d'appréhender, à mon avis, trois règnes au-dessus de nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir accès. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, dépasse notre capacité, pour moi, dépasse ma capacité à comprendre ces règnes au-dessus. Mais déjà, si je me penche sur le règne d'après, parce que, écoutez, il faut être quand même logique. S'il y en a déjà eu trois, pourquoi on s'arrêterait aujourd'hui ? Il n'y a pas de raison. Donc, il y en a peut-être bien qui vont suivre. Si on avait dit à la fleur, tu sais, il va y avoir un règne après toi qui marchera, qui n'aura pas de racines, elle aurait dit, non, mais ça ne va pas, vous êtes fous, quoi. Et donc, quand on a dit à l'animal, mais tu sais, il y en a un qui va tout construire, il sera capable de voler, il sera capable d'aller dans la terre, il sera capable d'aller dans les mers, il dira, mais non, l'animal, il sait faire une chose, il sait pas aller dans tous les mondes à la fois. Et donc, chaque règne est limité par sa perception. Et que donc, je pense que je me sens, moi, limité pour parler de Dieu. Mais qu'il y ait une intelligence à l'œuvre, quand on regarde la phylogénèse, ça me semble, à moi, une évidence, mais j'oblige personne à y croire. Mais quand on observe l'enchaînement et la précision des choses, quand on écoute même, donc, comme je disais toujours, cet astrophysicien, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est un pari, on ne peut pas prouver. Chacun pense ce qu'il veut.
Pari pascalien dans toute sa splendeur.
Peut-être bien.
On ne peut pas prouver que Dieu existe. Par contre, je peux faire ce pari qu'il existe et donc ça peut changer ma façon de me situer dans le monde. Enfin, après, chacun voit...
Ce serait une autre discussion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre idée, c'est que Dieu serait une expérience. Et donc, il n'y a pas de moyen de prouver l'expérience. Si je prends un exemple. Si tout à l'heure, il y a un vaisseau spatial qui se pose avec des martiens. Bon, vous êtes avec moi et on voit atterrir les martiens, on serre les mains et tout. Et les martiens s'en vont. Il reste quoi ? Il reste que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, je pourrais faire tout ce que je veux, personne ne me croira. Il restera que nous, on les a vus. Bon, ceci dit, les martiens, ils n'existent pas, on le sait maintenant. Je prends cet exemple, mais bon. Mais vous voyez, il y a des choses qui appartiennent à l'expérience intérieure, et cette expérience intérieure acquiert une conviction. Et cette conviction, eh ben, elle est nôtre, elle est ce qu'elle est. Et elle n'est pas transmissible, sauf par quelqu'un qui, dans son chemin, fera une expérience. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter d'essayer de faire, c'est de faire coïncider l'intelligence qui réfléchit, qui pèse les choses, et l'expérience. Ce sont deux choses différentes.
Alors, ensuite, le prochain événement sera le 27-28, un stage sur le couple.
Oui, alors, le couple aussi, ça c'est, ben alors, tout, bien, c'est évident que la sexualité, on l'a vu tout à l'heure, mais j'ai voulu faire plutôt des week-ends sur le couple, puisque ce n'est pas le premier que je fais, parce que je pense de façon très, très forte qu'il est bien dommage qu'avant qu'on s'engage dans un couple, on ne soit pas prévenu des étapes normales du couple. Et qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans une conférence que j'ai entendue de Jean-Marie Pelt, qui disait, écoutez, il y a quand même deux choses qui m'étonnent, c'est qu'on laisse les humains s'embarquer dans l'expérience du couple sans les avoir avertis et dans l'expérience de la grossesse sans les avoir avertis. Et je fais les deux. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, il est extrêmement important qu'on soit un couple qui va se former, qu'on soit un couple qui n'a pas de problème mais qui veut comprendre comment ça évolue, et pour un couple qui a des difficultés ou un couple mûr qui doit passer à un autre étage, qu'on comprenne les différents temps du couple, les différents enjeux de chaque étape et comment on passe de l'une à l'autre, ça me paraît essentiel de nos jours. Ça me paraît complètement essentiel parce que là aussi, ça rejoint un peu mes préoccupations professionnelles. J'ai trop vu de couples ne pas se comprendre, ne pas discuter, ne pas comprendre que les épreuves qu'ils traversent sont normales et qu'il y a moyen de traverser ces épreuves. Mais que s'imaginer qu'on va rencontrer le grand amour, avoir une vie linéaire avec un grand amour, l'autre est parfait et que je serai parfait, c'est une illusion profonde qui ne correspond en aucune façon à la réalité. Et il faut le savoir et il faut connaître les étapes. C'est ce qui me semble essentiel. C'est pour ça que je propose ces week-ends couples.
Alors, je ne sais pas si c'est trop vous demander, Monsieur Rens, de déflorer ce fameux stage en très rapidement, de nous décrire ces différentes étapes de la vie du couple.
Si vous voulez, je crois que il y a deux choses. C'est d'abord ce que j'explique, c'est l'histoire du couple, parce que c'est important de savoir qu'une chose, c'est que le couple est une histoire récente dans les humains, c'est quelque chose de difficile, qu'on n'y arrive pas et donc normal. On ne demande pas, je m'excuse de l'exemple, mais un petit enfant qui commence à se lever, à marcher tout de suite. Et je crois que dans la construction du couple, nous sommes au début, c'est difficile, on n'a pas tout compris, et donc il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de tendresse pour nos difficultés dans les couples. Ensuite, dans les étapes du couple, il y en a une première, c'est ce que j'appelle l'illusion. C'est-à-dire que l'illusion, on trouve c'est l'étape prince et princesse charmante. C'est-à-dire qu'on s'imagine que l'autre est parfait, que c'est magnifique, etc. Et donc, on a une espèce d'amour où on se dit, bah, écoutez, moi, on se dit à soi-même, hein, mais moi, je vais vivre un grand amour, mes parents n'ont pas bien réussi, ils sont engueulés, mais moi, je suis avec mon âme sœur, ça va être magnifique, on va se comprendre sans se parler, ça va être... Bon, cette étape, elle est le plus souvent... quelques mois, quelques années, quelques jours, ça va dépendre. Mais elle n'est qu'une étape, et c'est ce que j'appelle la période prince-princesse charmante, ou Père Noël, c'est-à-dire qu'on croit au Père Noël, quoi. Et puis quand cette période se termine, il y a les premiers agacements qui arrivent, c'est-à-dire que l'autre fait des choses qui nous contrarient. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va être un révélateur de choses pas réglées dans notre passé, de douleurs pas réglées, et le fait qu'il laisse traîner ses chaussettes sur le canapé, qui est en effet pas la chose la plus magnifique à faire, mais va nous prendre à un endroit, va nous agacer à un endroit particulier, et il va falloir trouver cet agacement et s'apaiser soi-même pour ne pas faire une guerre. Vous voyez, on revient toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire la paix en soi pour ne pas faire de guerre. Et la première paix, elle est dans le couple, elle est avec soi-même, elle est dans le couple, parce que dans le couple, on a l'autre 24 heures sur 24, et donc il y a plein de petites occasions de guerre qu'il faut dépasser. Donc il y a cette autre période, c'est comment je fais maintenant que j'ai découvert qu'il ou elle est imparfaite ou imparfait, et que je suis imparfait ou imparfaite, comment je fais pour vivre avec ? Et c'est la période, pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, la période de la tendresse pour soi et pour l'autre. Et petit à petit, il faut arriver non pas à vivre avec les qualités de l'autre, ce qui est facile, c'est juste de l'intelligence de vivre avec la beauté de l'autre, mais vivre avec l'imperfection, la sienne et celle de l'autre. Et c'est là que l'amour humain commence, dans l'amour qui dure avec l'imperfection de soi et de l'autre. Et c'est pas si facile. Et il y a un outil que je développe et ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai vu un film récemment là-dessus et où il y avait beaucoup d'intervenants sur le couple et qui disaient pratiquement tous la même chose, ce que je suis en train de dire. Et nous, on a développé, moi j'ai développé un jeu sacré qui est, je leur dis, écoutez, quand on commence à s'agacer dans le couple, on a des contrariétés, on est contrarié parce que l'autre fait ci, l'autre fait ça. On peut déjà faire un premier effort et tout le monde peut le faire, c'est passer un temps ensemble où au lieu de dire tu fais ci, tu fais ça, dire cette chose me fait souffrir. C'est-à-dire passer de nos contrariétés à confidence. Contrariété à confidence. Cette chose me fait souffrir. On peut toujours dire ça. Dire à l'autre, t'es con parce que tu fais ça, ça, c'est pas bon. Dire à l'autre, écoute, voilà, je sais pas encore bien pourquoi, mais quand tu fais ça, ça me fait souffrir. Ça, c'est déjà un pas. Et c'est déjà un pas vers la tendresse, vers l'amour. Il y a une autre étape qui va être importante, c'est l'étape avec les enfants. Et où là, il y a quelque chose d'important qui va se passer. C'est qu'avec l'enfant, nous sommes censés tout faire à deux pour respecter cette vie, pour épanouir cette vie. C'est-à-dire qu'il nous est confié un être totalement dépendant de nous, à qui nous sommes censés ne faire que du bien. On n'est pas trop de deux. Parce que forcément, les agacements qu'on a eus dans le couple, on les retrouve avec l'enfant. Quelquefois, on est épuisé, on n'en peut plus. Donc, tout n'est pas simple. Quelquefois, ils nous posent des questions sur des choses où on n'est pas tranquille. Quelquefois, ils veulent faire des choses et nous, on a peur. Et qu'il faut en même temps, bien sûr, les protéger, mais en même temps, les laisser expérimenter. Et que donc, on n'est pas trop de deux à s'entraider, et non pas à s'opposer, à s'entraider pour cette vie. Et que donc, le début de l'entraide, c'est le début de l'entraide autour de l'enfant. C'est ce qui devrait arriver. Et ce n'est souvent pas le cas. Souvent, c'est j'ai un avis, tu as un avis, et c'est moi qui veux. Et chacun tire la couverture à soi pour dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc, ça crée non seulement des problèmes avec l'enfant, mais des problèmes dans le couple dont on n'avait pas forcément besoin. Et donc, cette entraide, elle va arriver. Et elle va être encore plus utile dans la dernière étape. C'est l'étape où... Qui va arriver avec ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, le moment où finalement nous avons réussi extérieurement et peut-être pas encore intérieurement. Et que finalement, avoir une autre télévision, avoir un autre métier, tout ça, où ne nous réjouit plus et il nous manque quelque chose intérieurement. Et que ce travail dont nous parlons, cette connaissance de soi, cette découverte d'une certaine capacité à se mettre en paix avec soi-même, va nous faire découvrir quelque chose qui nous importe. C'est-à-dire qu'après s'être occupé de soi, nous aurons besoin de nous occuper de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, tout ce que je développe dans mes stages, vous avez vu, j'en fais beaucoup. Je le fais parce que ça m'importe. Ce qu'on m'a enseigné, ce que j'ai appris, il m'importe de le rendre. Et qu'il n'y a pas d'autre but que celui-là. Ce que j'ai appris sur le couple, ce que j'ai appris sur la sexualité, ce que j'ai appris sur l'évolution, ça me paraît extrêmement important de le rendre à ceux que ça intéresse. Je ne fais pas de prosélytisme, je ne fais rien d'autre que ça. Mais il faut comprendre que du coup, cette chose qui accomplit ma vie cette fois-ci, eh bien, peut-être que ma compagne, elle aussi, elle a besoin d'accomplir sa vie. Et si moi, je suis celui qui l'aide à accomplir sa vie, et si elle est celle qui m'aide à accomplir ma vie, alors nous nous aidons à un niveau le plus élevé, qui est le monde spirituel, qui est le monde où je me réjouis quand tu t'épanouis, je me réjouis quand tu vis bien, même si tu n'es pas avec moi, mais que tu fais quelque chose qui t'importe, ça me réjouit. Et quand je suis avec toi, j'ai un être magnifique parce qu'il s'épanouit dans ce qu'il a à faire sur Terre. Et donc ça, c'est la dimension du couple qui ne peut s'appuyer que sur les précédentes. Donc voilà, j'ai essayé de vous dresser un tableau un peu bref, mais j'espère concis des étapes du couple.
En tout cas, un beau programme en perspective le 27 et 28 juin. Ensuite, il y aura des stages rencontres le 10-12 juin. Enfin, ce n'est pas tout à fait ensuite puisque c'est avant, mais le 10-12 juin avec Tim Guénard, dont vous allez nous parler un petit peu.
Alors, Tim Guénard, c'est un être magnifique que j'ai rencontré à Avignon il y a de nombreuses années dans le Festival Tendresse et qui a un parcours extrêmement intéressant, enfin intéressant, c'est pas le terme, extrêmement bousculé, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement maltraité. Sa mère, cette pauvre femme qui devait beaucoup souffrir, l'a attaché à un poteau et l'a laissé attaché à un poteau alors qu'il était tout petit. En partant, il ne l'a jamais revu. Son père a fini par le récupérer, on ne sait pas trop comment. Et cet homme buvait et tapait son fils. Et cet enfant s'est retrouvé les deux jambes brisées, donc hospitalisé plusieurs années, sans aucune visite, sans personne. Quand il est sorti, il voulait remarcher pour tuer son père, tellement il avait de la haine contre lui. Et puis, il a vécu des choses absolument... Comme un vagabond à Paris, vivant dans des caves, au milieu des rats, volant, enfin, une vie vraiment très, très bousculée. Et puis, il a fait quelques rencontres et quand je l'ai rencontré, il a écrit un livre qui s'appelle « Plus fort que la haine ». Et donc, comment lui, il a dépassé cette haine, puisqu'il a voulu remarcher pour tuer son père, cette haine qu'il avait en lui, et ce manque d'amour, parce qu'il avait manqué totalement d'amour. Comment lui, il a finalement rencontré un peu d'amour que certains lui ont donné et que lui a pu retrouver. Et c'est un homme qui s'occupe beaucoup d'enfants, d'enfants maltraités ou d'enfants plutôt très bousculés par la vie. Il va dans les prisons, il voyage un peu de partout dans le monde. C'est un être qui a un cœur extraordinaire, quoi. Et donc... Il vient à l'aube pour 3 jours, il vient du 10 au 12 juin pour rencontrer les gens qui le souhaitent, qui pourront lui poser des questions, il parlera de sa vie, enfin voilà, c'est des rencontres assez informelles, mais où on peut lui poser des questions, on peut côtoyer cet homme qui est en même temps complètement, j'allais dire, physiquement, il a des cicatrices de partout, mais ce qui est incroyable, c'est que ce qui est attirant, c'est la beauté de son être, et qu'on a envie de le toucher, on a envie de l'embrasser, alors qu'on ne peut pas dire qu'il soit physiquement beau, il a le nez cassé je ne sais pas combien de fois, il a les oreilles à moitié tordues, mais c'est vraiment un être extraordinaire, même physiquement, on a envie de le rencontrer, on a envie de lui parler, et d'ailleurs quand il est quelque part, il y a des espèces d'attroupements, on dirait, il attire les gens autour de lui, et c'est assez sidérant.
Et il fait mentir le proverbe qui dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne vous a pas donné.
Voilà, sauf qu'il l'a reçu tardivement, il l'a cherché. Et oui, il est l'exemple de la résilience. Vous savez, qui a été développé par Boris Cyrulnik, l'idée de la résilience, c'est-à-dire que nos douleurs peuvent être transformées pour de la beauté. C'est assez le principe. Et en fait, ils ont fait des conférences ensemble pendant longtemps. Ils se connaissent bien, Boris Cyrulnik et Tim Guénard. Et ils faisaient des conférences en double, l'un parlant, et pourtant il parle aussi de sa vie, Boris Cyrulnik, mais l'un parlant de son expérience, de sa vie, de ce qu'il a conceptualisé dans la résilience, et l'autre étant l'exemple type magnifique de la résilience. Donc ils ont fait beaucoup de choses en doublon, en particulier au Festival Tendresse.
Ensuite, il y aura un jeûne qui est relié du 20 au 24, plus un bilan de vie.
Voilà, alors ça, c'est moi qui le propose.
Quel éclectisme.
Oui, mais vous savez, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai jeûné plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue de l'expérience intérieure, parce que ça constitue. C'est-à-dire que si on sait prendre le jeûne dans sa dimension, non pas souffrance, parce qu'il ne s'agit pas de souffrir, il s'agit au contraire de s'alléger, et en s'allégeant et en dépassant nos peurs par rapport à l'alimentation, nous atteignons une certaine sérénité, une certaine altitude intérieure. Et cette altitude intérieure me paraît tout à fait profitable pour faire un bilan de vie. Je crois que le bilan de vie, c'est quelque chose qui me paraît, en tout cas à moi, extrêmement essentiel dans ma propre vie. Vous savez, moi, ce que j'enseigne, c'est ce qui me sert dans ma propre vie. Et je crois que notre vie, c'est à l'image d'un bateau qui navigue avec des courants, avec des vents, et où on savait où on voulait aller. Et puis, tout d'un coup, si on, de temps en temps... on ne se pose pas la question, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, on ne sait plus trop si on est dans la bonne direction. Et s'arrêter une fois par an pour faire le point de sa vie, de tous les secteurs de sa vie, professionnel, matériel, affectif, amoureux, spirituel, créatif, etc. S'arrêter pour faire le point et dire où j'en suis, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce que je peux faire pour reprendre la direction que j'ai choisie pour ma vie, ça me paraît absolument essentiel. Parce qu'autrement, on se trouve à la fin en se disant « mais ce n'est pas là que je voulais aller ». Et ça, c'est extrêmement fort et extrêmement terrible d'arriver à la fin de sa vie et dire « mais ce n'est pas là que je voulais aller ». Et donc, profiter de l'allègement des fonctions du corps qui favorise les fonctions de l'esprit pour se poser des questions essentielles sur sa vie et reprendre un cap, ça me paraît tout à fait profitable. Alors, c'est vrai que, comme vous le faisiez remarquer hors antenne, le stage paraît court puisque c'est du 20 au 24 et que pour un jeûne, ça fait court. Mais en fait, je leur propose, parce que c'est une liberté, de se préparer en fait à partir de 2 jours avant et de terminer en douceur. Donc, en fait, c'est une initiation au jeûne plus qu'un vrai jeûne puisque ça dure finalement 1 semaine. Mais c'est déjà intéressant comme expérience. Et on fait la très belle expérience de d'abord dépasser ses peurs et puis rentrer dans cette expérience spirituelle qui est de considérer et d'expérimenter que cet allègement des fonctions du corps produit une plus grande facilité dans les fonctions de l'esprit. Et du coup, ben voilà, la personne après, elle sera devant cette expérience et elle verra ce qu'elle en fait.
Ce sera un jeûne hydrique pur d'entrée de jeu.
Voilà, c'est ça, oui. Alors oui, alors petit jus de fruits si on veut, des petites choses comme ça. Le but, c'est pas la performance du jeûne, c'est pas du tout ça. Le but, c'est d'alléger les fonctions et donc qu'il y ait hydrique avec peut-être un jus de fruits ou quelque chose d'extrêmement, une soupe extrêmement claire n'est pas gênante, ne pose pas de problème.
Alors, je dis ça, c'est parce que comme je connais un petit peu aussi jeûne, ouais. J'en ai fait un certain nombre accompagné par quelqu'un qui se réclame de l'école hygiéniste, dans lequel ils disent par exemple qu'un jeûne qui est un effort du corps pour se détoxiner, Ça peut être un peu trop difficile pour quelqu'un, surtout bien chargé au niveau des toxines, un jeûne hydrique d'entrée de jeu, parce que, au contraire, il faut peut-être lui donner quelques glucides pour l'aider à détoxiner, justement.
Oui, oui. C'est pour ça que nous, on fait. En fait, c'est un jeûne hydrique pas strict. C'est-à-dire qu'il y a en effet des jus de fruits à midi et une petite soupe le soir légère. Et en fait, ça ne gêne en rien l'expérience. Mais en effet, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a une préparation. On ne rentre pas comme ça dans le jeûne. Donc, j'envoie un certain nombre de conseils. Parce que déjà, même avant de commencer le jeûne, si on le commence le samedi, 3 jours avant, il faut manger de façon de plus en plus légère parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai fait l'erreur.
J'ai après avoir un bon ragoût de mouton juste la veille.
Oui, mon premier jeûne, je me suis dit, bon, il faut arriver bien chargé pour tenir le coup. Et donc, j'ai mangé vraiment trop et j'ai beaucoup souffert. Donc, je n'ai jamais recommencé ça. Ah oui, les erreurs de... Il y a des erreurs à ne pas faire.
Oui, c'est... et puis la sortie de jeûne peut être aussi redoutable. Moi.
Il faut la faire avec grande délicatesse et il faut vraiment déguster parce que là, tous nos papilles sont beaucoup plus fines, tous nos organes d'essence sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus fins. Et donc, il faut très, très peu de choses pour enthousiasmer nos papilles, enthousiasmer nos organes d'essence par la beauté d'abord des plats tels qu'ils sont préparés et puis du goût. Donc, il faut rentrer avec grande délicatesse là-dedans. La redécouverte des goûts, c'est extraordinaire aussi. Donc, ça fait partie du stage, ça aussi.
Super. Donc, ensuite, on arrive à une proposition plus apparemment anecdotique, mais il n'y a pas de saut événement. Hein. Je ne voudrais pas que vous puissiez croire un seul instant que je déprécie cette proposition qui est la moto et l'amour.
Ah, la moto et l'amour, oui. Alors, en fait... c'est vrai que j'aime beaucoup la moto, j'ai toujours fait de la moto et je me suis dit ce serait bien de faire un truc sympa avec des motards et en même temps qu'il y a un contenu le soir qu'on puisse discuter de choses un peu plus sérieuses que de vrombissements de moteur, de tours minutes et de choses comme ça. Et donc j'ai repris un de mes sujets favoris qui est la sexualité et je pense que comme ça autour d'un verre en rentrant de moto on peut apprendre on peut familiariser avec quelques notions importantes de la sexualité que nous avons évoquées tout à l'heure. Et ça peut comme ça un petit peu nous dégourdir par rapport à cette fonction et nous faire rentrer dans quelque chose qui est plus la réalité et non pas une espèce d'utopisme, comme je disais tout à l'heure, de performance et de choses comme ça. Donc, je pense que profiter de la moto pour une heure et demie le soir devant un apéritif et se parler un peu plus librement de cette fonction et en la respectant, ça me paraît intéressant.
Ça doit aider quand même d'avoir une belle moto pour s'arrêter devant une terrasse de café, non ?
Ah, ça c'est sûr. Alors ça, c'est le principe motard. C'est-à-dire qu'il faut que la moto soit jamais très loin. Donc il faut des cafés où on peut ranger les motos en face pour les regarder. Ça fait partie du plaisir.
Je ne vois pas très bien la connexion entre la moto et la sexualité, mais qu'à cela tienne.
Eh bien, si, il y en a quand même une. Je vais vous expliquer, il y en a une. C'est que la moto, vous savez, il faut vous poser la question, pourquoi les motards se saluent toujours ? Alors qu'en voiture, vous n'avez pas l'idée de saluer les autres voitures. Quand vous faites de la moto, vous êtes obligé d'être dans un hissier maintenant parce qu'il faut une très grande présence. Parce que le danger est tout le temps. Ce n'est pas très stable, ça va très vite. Il faut donc une très grande vigilance et votre vie est beaucoup plus en danger à moto qu'en voiture. Et donc, il y a un côté un peu impermanence à moto qui fait la solidarité, qui fait que quand on croise un motard, on sait que la vie n'est pas si simple, que s'il y a un camion qui ne le voit pas et qui déboîte brutalement, s'il y a une voiture qui freine alors qu'il n'y avait pas d'obstacle ou qui serre sur le côté droit, sur le côté gauche, la vie est beaucoup plus en danger. Et donc, il y a un goût du risque dans la moto qu'on retrouve dans la sexualité. Dans la sexualité, il y a aussi un initié maintenant et un goût du risque, puisque c'est se dépasser dans la sexualité. C'est prendre le risque de se montrer nu physiquement et psychiquement. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dépassement dans les deux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident, je suis d'accord avec vous, mais il y a un côté quand même qui se ressent.
Mais loin de moi l'idée de, comme vous le disiez, de mettre le moindre commentaire dépréciateur de ce stage.
On aime la moto ou on n'aime pas.
Ou alors on peut s'en payer une ou pas.
Mais en fait, il y a aussi des motards qui ont de la place derrière eux et qui peuvent prendre des personnes qui voudraient faire de la moto sans avoir de moto.
C'est possible. C'est pas la même chose d'être derrière que devant. Quand
ah
même.
Oui, mais il y en a qui aiment.
Ah oui. Faut faire confiance au conducteur.
Ah oui,
faut
une grande confiance. Oui. Oui. Tout à fait.
Puis ça se penche sur le virage, hein, puis ça freine bien, puis ça accélère fort. Enfin,
Ah,
peut-être éventuellement, c'est tout un apprentissage sur la confiance en l'autre.
Il faut avoir confiance en l'autre, donc il faut le connaître. Il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient instaurées, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre des risques bêtement. Donc, mais de toute façon, vous savez, nous, on n'est pas là pour faire de la vitesse. On est là pour se promener, pour Et voilà, et puis pour déguster le paysage, l'air, les senteurs, de tout. Donc, non, on n'est pas là pour faire de la compétition.
Et alors la dernière proposition de votre programme jusqu'au mois d'août, hein, le disais-je, c'est un stage sur l'argent juste. Parce qu'effectivement, hein, on n'est pas là sur ce monde pour être misérable.
Eh ben oui, parce que si vous voulez, l'argent, c'est quand même l'énergie qui nous permet d'être, de vivre. C'est l'énergie qui nous permet de faire ce dont nous avons besoin. Et ce n'est pas si simple. C'est une énergie. Et donc, apprendre à gérer l'argent, ce n'est pas forcément simple. Moi, j'ai eu des difficultés. Pourtant, même avec mon métier, j'ai eu des difficultés. Et de plus en plus, on voit les gens en difficulté par rapport à l'argent. Et que mon ami Jean-Luc Tournier, qui m'aide maintenant avec sa femme Josiane Tournier à l'Aube, depuis maintenant presque un an, lui, il a traversé toutes ces difficultés par rapport à l'argent. Et donc, il est tout à fait à même de faire prendre conscience des règles de l'argent, d'accompagner ceux qui sont en difficulté, d'expliquer qu'en fait, l'argent, on le gère depuis sa propre personnalité, depuis la propre valeur qu'on s'accorde à soi-même. Et que donc, notre personnalité agit sur notre façon dont on gère l'argent. Et que donc, en fait, on se rencontre aussi à travers l'argent. Et donc, c'est ce qu'il fait, lui, puisque... Il a développé ça, comme je le disais, pour lui-même. Et donc, c'est comment on se rencontre à travers nos propres difficultés par rapport à l'argent et comment on les dépasse pour pouvoir être plus à l'aise. Parce que quand on est préoccupé sans arrêt par les problèmes financiers, par les problèmes d'argent, on a un petit peu de mal à assumer le reste. C'est pas si simple.
Oui, la fameuse pyramide de Maslow sur les besoins primaires plus Exactement. Ou moins évolués. Et tant qu'on est coincé dans le strict nécessaire, on ne peut pas se décoincer.
Exactement. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est épuisé, qui ne mange pas à sa faim et qui a des soucis d'argent, autre chose que d'essayer de régler ces soucis-là. Et ils ne sont pas du tout ridicules et c'est très important de régler ce problème d'argent. C'est quelque chose qui, pour moi aussi, je l'ai appris au cours de mon chemin. Et l'argent juste, c'est extrêmement important. Donc, moi, j'ai pas besoin de faire fortune. J'ai besoin d'avoir ce qu'il faut pour vivre et puis pour développer ce qui me paraît important d'apporter ma modeste pierre à l'évolution.
Alors, dernière petite question, Monsieur Rennes. Vous pensez qu'avec une légère adaptation de son rapport avec l'argent, on peut régler une insécurité financière chronique?
Ah oui, je pense, oui, bien sûr. Ah oui, je pense, tout à fait. Oui, quand on regarde les difficultés financières d'un être, on s'aperçoit que, ça, bien sûr, et quelquefois ça paraît insoluble, mais parce qu'il y a beaucoup de blocages intérieurs et qu'il ne s'agit pas de passer en force, il s'agit de faire que la personne se rencontre, voit pourquoi elle fonctionne comme ça, et de la tendresse pour elle. Il ne s'agit pas de dire « je suis con, je fais comme ça », il ne s'agit pas de ça, ce serait contre l'évolution, ça. Et donc, après, il y a des choses qu'on peut dépasser, bien évidemment. Mais vous savez, il y a une chose simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent tellement mal, qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur et que du coup, ils n'ont pas de raison d'avoir de l'argent. Si je ne mérite rien, je ne mérite même pas d'argent. Et donc, je me débrouille pour ne pas en avoir. Moi, quand j'ai été en difficulté il y a quelques années, ce n'était pas pour cette raison-là. C'était parce que je n'ai pas mesuré les risques et je n'ai pas calculé. Voilà, je suis parti dans une espèce d'enthousiasme un peu juvénile il y a maintenant une vingtaine d'années et dans un truc qui m'enthousiasmait sans vraiment tenir compte de la matière. Et là, j'ai appris qu'on ne fait pas ça. On tient compte de la matière et c'est la matière qui donne l'autorisation. Si on n'a pas l'autorisation de la matière, on se met dans des difficultés et ce n'est pas parce qu'on a voulu aller vers quelque chose de beau et de magnifique et qu'on n'a pas... Que ça va se faire si on n'a pas réglé la matière.
Très bien, mais Monsieur Rennes, hein, si je devais retenir quelque chose de ces nombreux sujets, c'est effectivement quand même de la tendresse pour soi et pour les autres, qui imprègne toutes vos propositions. Alors, on pourrait peut-être rappeler que le centre de l'Aube est à Piégros-Laclastre, que généralement, vaut mieux peut-être téléphoner ou pas, je ne sais pas.
Alors pour les conférences, c'est pas la peine, on peut venir comme ça. Autrement, de toute façon, il y a un site, hein, www.aube-association.com, aube-association.com, voilà. Et puis, en effet, il y a une permanence, c'est-à-dire qu'on peut téléphoner pour avoir des renseignements de 12h30 à 14h tous les jours, donc au centre de l'Aube. Au 04 75 40 03 24. 04 75 40 03 24.
Et puis, je mettrai sur la page de cette émission un résumé de toutes les propositions du centre de l'Aube jusqu'au mois d'août. Monsieur Rennes, je vous remercie d'être passé.
Louis, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté et d'avoir permis de faire connaître un petit peu ce que nous faisons.
Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.
Interview. Interview.
Bird.
L'interview du jour.